إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبحمد الله عز وجل نواصل دروسنا فيما يتيسر من أصول من أصول في التفسير للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى وما زلنا في باب المكي والمدني أي باب الآيات المكية والآيات المدنية طيب وقلنا في درسنا الماضي إن صور القرآن وآياته بالنسبة للمكية والمدنية على أربعة أنواع طيب النوع الأول صورة كلها مكي كلها نزلت يعني قبل الهجرة النبوية مثل صورة الإخلاص donc on a évoqué la semaine dernière on a commencé donc à évoquer le chapitre concernant les versets qui sont mécois ou médinois جيد on a vu que l'avis le plus correct à ce sujet là est que les versets mécois sont ceux qui ont été révélés avant la hijra, avant l'égir de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc les versets mécois sont ceux qui sont révélés avant la hijra de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux versets médinois, ceux qui sont révélés après la hijra de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quel que soit l'endroit, quel que soit l'endroit auquel ils ont été révélés. Ça, c'est la parole correcte, Inch'Allah Ta'ala. Il y en avait vu donc qu'il y avait quatre catégories de versets, yani, mécois et médinois. La première catégorie, les sourates qui sont tout entières, yani, mécoises. Les sourates mécoises dans leur intégralité. Telles que surat al-Ikhlas. النوع الثاني ما نزل في المدينة أو ما نزل يعني بعد الهجرة وليس منها آيات مكية من مثل سورة المائدة. Deuxième catégorie, celles qui les sourates qui sont entièrement médinoises, qui sont entièrement médinoises, telles que la sourate al-Maïda. Donc dans la sourate al-Maïda, il n'y a pas de verset mécois. جيد. ونوع الثالث سورة المكية فيها آيات مدنية تكون فيها آية أو آيتين أو ثلاث مدنية طيب troisième catégorie les sourates qui sont mécoises mais dans lesquelles il se peut y ait quelques versets médinois les sourates mécoises dans lesquelles il se peut qu'il y ait quelques un deux ou trois versets يعني médinois ونوع الرابع سور مدنية فيها آيات مكية. Et enfin, quatrième catégorie, les sourates médinoises dans lesquelles il se peut qu'il y ait quelques versets mécois. Voyez. Il y en avait vu donc également certaines différences au niveau entre les versets mécois et les versets médinois, au niveau du style et aussi au niveau du contenu, au niveau de la forme et au niveau du fond. Donc au niveau de la forme, on avait vu que les versets mécois sont plus durs
et plus sévères. Hein, au niveau du style, ils sont plus durs et plus sévères, car la plupart sont adressés aux kuffars et à ceux qui se sont enflés d'orgueil et n'ont pas accepté yani, le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les sourates ou les versets médinois, la plupart, yani, leur style, leur forme, il est plus doux. Il est plus doux, il est plus facile. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse dans la majorité à ceux qui ont accepté l'islam. Taïeb, comme la sourate Al-Ma'ida, mathala. Taïeb. Et également, on avait vu, ça c'est la première différence au niveau de la forme. Au niveau de la forme également, le fait que les sourates ou les versets mécois, ils sont plus concis, ils sont plus courts. Hein, ils sont plus concis, ils sont plus courts. Jayed, contrairement aux versets médinois, qui eux sont plus longs. En général, ils sont plus longs, voyez, car Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets-là, il expose les règles religieuses, alhamdulillahi azza wa jal, sans forcément avoir recours à l'argumentation, comme il a eu recours à l'argumentation avec les versets mécois. Avec les versets mécois. Donc parmi les exemples des versets médinois qui sont assez longs, les versets de la dette, ayat al-Dayn, de la sourate al-Baqarah. Au niveau du fond maintenant, au niveau des thèmes, les versets médinois, la plupart d'entre eux sont là pour affirmer le tawhid, pour affirmer la croyance, la bonne croyance, hein, concernant notamment, en l'occurrence, le tawhid de la divinité, le tawhid dans la foi en l'au-delà, en la résurrection. Hein? Taïeb, pourquoi? Parce que ces versets-là, mais quoi, sont adressés pour la plupart à des gens qui reniaient cela, qui reniaient le tawhid dans l'adoration, qui reniaient le tawhid en la résurrection, etc. etc. Taïeb, au niveau du thème, au niveau du sujet traité, du fond, les sourates ou les versets, mais quoi, traitent plus de ça, traitent plus du tawhid et traitent plus de la croyance saine. Alors que les versets médinois, la plupart, yani, exposent plutôt les adorations de manière détaillée et les relations entre les gens de manière détaillée. Jayid, parce que la plupart de ces versets-là sont adressés à des gens qui avaient accepté le tawhid et qui ont adhéré à la croyance saine, bihamdillahi azza wa jal. Jayid. Et deuxième différence au niveau du fond également, le fait que dans les versets médinois, il est plus question yani, du combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses règles, des versets qui sont adressés aux hypocrites et de la situation et de l'état des hypocrites. Ça, c'est les versets yani, médinois plus. Pourquoi? Parce que justement, la situation exigée, c'est là. Vous voyez, par rapport donc à la multiplication des hypocrites, na'am, contrairement donc au temps yani, avant l'Hijra, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donc, descendait ces versets-là, avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas cette situation-là particulière. Alhamdulillah. Oui. Al-an, sanadkuru inshallah ta'ala fawa'id. Fawa'ida ma'rifati al-madani wal-makki. Ma hiya فوائد هذه المعرفة قال الشيخ العثيمين رحمه الله معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة وذلك لأن فيها فوائد منها الأولى ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة Aulilin wa suhula. Donc, maintenant, on va commencer à mentionner certains intérêts, certains bénéfices de la connaissance des versets médinois ou mécois. Yani, qu'est-ce que cela nous apporte de savoir si le verset ou la sourate, elle est médinoise ou mécoise? Il dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, le fait de connaître cela, eh bien, tout simplement, c'est une des sciences qui concerne Al-Qur'an. C'est une des sciences qui concerne Al-Qur'an, les sciences importantes concernant Al-Qur'an. Et en cela, il y a plusieurs intérêts, plusieurs profits. Le premier, la mise en évidence de l'éloquence du Coran. La mise en évidence de l'éloquence et de la rhétorique du Coran à son plus haut degré. Jayyid. Étant donné que chaque personne, chaque peuple, yani, chaque groupe de gens, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à eux en fonction de ce que leur état exigeait, en fonction des exigences de leur état. Donc des fois Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait à certains avec vigueur, avec sévérité, avec dureté, alors qu'avec d'autres, Allah jalla wa ala, il s'est adressé à eux avec facilité, avec douceur, hein, avec douceur, na'am, et compassion, na'am. Idhan, hadha huwa al-fa'ida al-oula. Qala al-shaykh al-Uthaymeen rahimahou Allah ta'ala, hadha min afyad al-fawa'id. Hadha min afyad al-fawa'id. أن نعرف أن القرآن أبلغ ما يكون في الكلام لأنه يخاطب أو يخاطب كل قوم بما تقتضي حالهم وتفرع على هذه الفائدة أننا نحن كذلك يعني نسلك مسلك القرآن فنخاطب كل قوم بما تقتضي حالهم لأننا نعلم أن هذا هو البلاغة وهذا هو الأفضل فلا يستوي الجاهل جهلا بسيطا الذي يأتي بأدنى السبب والعالم المعاند العالم المعاند يعامل بشدة والأول يعامل بالرفق واللين. يجل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى cette faïda, cet intérêt là, ce profit fait partie des plus grands profits afin que l'on sache, donc que l'on sache que le Coran à un niveau d'éloquence et de rhétorique le meilleur qui soit. Pourquoi? Parce que chaque personne, comme on a dit, chaque groupe de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à eux en fonction de ce qu'exige leur état, leur condition. D'ailleurs, donc parmi ce qui en découle de cette faïda, c'est que nous aussi, on doit prendre cette voie, on doit utiliser cette méthode d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le fait que on doit parler, on doit s'adresser aux gens en fonction de leurs conditions, en fonction de leur état. On doit prendre en compte l'état de la personne. Vous voyez? Et lorsque tu arriveras à parler, à t'adresser aux gens en t'adaptant à l'état de ces gens et de ce que leur état exige dans ta façon de parler, dans la forme comme dans le fond d'ailleurs, ça c'est la plus grande éloquence. Hein, il est clair que tu ne vas pas t'adresser à un ignorant dont l'ignorance yani, est simple, hein, à quelqu'un qui ne sait pas, tout simplement. Tu ne vas pas t'adresser à un simple ignorant comme tu vas t'adresser à quelqu'un qui a de la science. À quelqu'un qui a de la science, mais qui est entêté dans le faux. Forcément, celui qui a de la science et qui est têtu et qui est entêté dans le faux, celui-là, tu vas lui parler avec yani, vigueur, avec sévérité, avec fermeté. Alors que le premier, el-jahil, l'ignorant, lui, d'ignorance simple, basique, lui, tu vas parler avec lui avec douceur, gentillesse, amabilité, etc., etc. Taillé. Donc on doit prendre, pour exemple, l'éloquence du Coran. Hein, ici dans la forme, dans le fait de s'adapter à la personne qui est en face et à qui on s'adresse. Jayed? Alhamdulillah. Al-fa'ida al-thaniya. ظهور حكمة التشريع في أسماء غايته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. Deuxième profit du fait de connaître les versets médinois, les versets mécois, hein, eh bien, la mise en évidence de la sagesse de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et des objectifs et que ces objectifs sont les objectifs les plus nobles et les meilleurs qui soient. C'est-à-dire en vertu du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé donc ces versets de façon progressive, en fonction du plus important, en fonction de l'importance, yani, de chaque situation, et du besoin des gens à qui Allah Jalla wa'ala s'est adressé. Et cela afin de les préparer petit à petit à l'acceptation et à la mise en application de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur aura révélé. Donc là, parmi les profits, donc, de savoir si la sourate elle est médinoise ou mécoise, le fait que l'on prenne conscience de cela. On prend conscience de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa façon de légiférer de manière progressive. Thalithan, تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين بحيث يبدأ بالأهم فالأهم بحيث يبدأ بالأهم فالأهم وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. Troisième profit, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala éduque les prédicateurs, ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il les éduque, il les instruit, il les oriente vers le fait de suivre justement le style du Coran au niveau du fond comme de la forme. Vous voyez, en fonction, encore une fois, de al-mukhatabin, des gens à qui on s'adresse. En commençant par exemple par le plus important. Tu commences par le plus important. Et donc la dureté ou la sévérité ou la fermeté sera utilisée quand il le faut à sa place. Et la gentillesse, la douceur, la tendresse sera utilisée également à sa place. ولهذا قال الشيخ العثيمين هذا المعنى أشرنا إليه قبل قليل أنه ينبغي أن يتخذ من هذا المنهج القرآني منهاجا في الدعوة إلى الله بحيث نتدرج مع الإنسان شيئا فشيئا فنبدأ بالأهم فالأهم فإذا رأيناه مفرطا مثلا في الصلاة ومفرطا في الصيام فبأيهما نبدأ؟ أين هل نبدأ بالصلاة أم بالصيام؟ نبدأ بالصلاة لا شك، لأنها أهم. وإذا رأينا هذا الرجل يفرط في صلاة الفريضة ويتقن صلاة النافلة كما يوجد في كثير من الناس الآن، تجده في صلاة النافلة يطمئن ويكثر من التسبيح والدعاء، أما في الفريضة فلا يطمئن. فإننا ننصح ونبدأ بالفريضة لأنها أهم، فمن حيث الأسلوب والموضوع ينبغي للإنسان أن يراعي ذلك حتى يكون موافقا لما في القرآن الكريم من التربية. يجي لي الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بارابور à cette faïda. Il dit qu'il incombe à la personne de prendre exemple sur la voie coranique, sur le style coranique dans son appel à Allah. Lorsqu'il appelle à Allah, lorsqu'il conseille les gens et les appelle à la sunna, مثلا, il doit les appeler de manière progressive, comme l'a fait Allah dans le Coran. Donc il doit commencer par la chose la plus importante. Par exemple, si tu vois qu'une personne, elle est négligente au niveau de sa prière, elle ne prie pas, ou elle néglige, elle est laxiste dans sa prière. Et elle est négligente aussi au niveau du jeûne de Ramadan. Tu la vois, elle néglige la prière, elle néglige le jeûne de Ramadan. Par quoi tu vas commencer? Est-ce que tu vas commencer par le jeûne, ou est-ce que tu vas commencer par la salate, par la conseiller au niveau de sa salate? Il n'y a pas de doute que tu vas commencer par la salate, parce qu'elle est plus importante que le jeûne. D'ailleurs, ensuite, si tu vois un homme qui est négligent dans ses prières obligatoires, mais tu le vois quand il prie des prières facultatives, il est concentré, il est pris de la meilleure des manières. Mais quand il prie des prières obligatoires, tu le vois, il est négligent et laxiste, comme on le voit aujourd'hui dans beaucoup, chez beaucoup de gens. Par exemple, la prière de Tarawih. Il y a des gens, yani, lorsqu'ils vont venir prier Tarawih, ils vont se faire beau, ils vont mettre leurs meilleurs habits, ils vont arriver à l'avance à la mosquée, et ils vont venir avec leurs enfants, etc., etc. Et tu les vois, ils prient Tarawih avec l'imam du début à la fin, durant un mois entier. Et puis certains, tu ne les vois plus à la mosquée, après Ramadan, après l'Eid, tu ne les vois plus. Hein? Tu ne les vois plus. Ni le Fajr, ni le Isha, ni le Maghrib, ni rien. Subhanallah. Donc qu'est-ce que tu vas conseiller à cette personne-là? Ou alors la personne, quand elle va prier Tarawih, quand elle prie facultative, elle sera concentrée. Elle fera beaucoup de dua, masha'Allah. Alors quand elle prie une prière obligatoire, elle n'est pas concentrée. Elle ne fait pas de dua, ou beaucoup moins, etc. Donc celle-là, on va la conseiller. On va commencer par la conseiller au niveau de ses prières obligatoires. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va commencer par la juger au niveau de ses obligations. Au niveau de ses obligations. L'obligatoire est forcément beaucoup plus importante que les prières facultatives. Jayed. Donc au niveau de la forme, au niveau du forme, il faut que la personne veille à ce qu'elle soit conforme à ce qui a été rapporté dans le Coran al-Karim, au niveau de l'instruction, au niveau du style, et au niveau du manhaj, de la voie à suivre, notamment dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Rabi'an, تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية وتحقق فيما أو فيهما شروط النسخ فإن المدينة ناسخة للمكية لتأخر المدينة لتأخر عفوا المدنية عنها فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. Quatrièmement, hein, le fait de connaître les versets mécois ou les versets médinois, cela nous permettra de connaître les versets qui sont abrogeants et les versets qui sont abrogés. Donc lorsque par exemple on va avoir deux versets, un des deux versets il est mécois, l'autre verset il est médinois. Jayed. Et que toutes les conditions qui fait que l'abrogation ici est présente, c'est-à-dire qu'un des deux versets va abroger l'autre, lequel va abroger l'autre? Est-ce que c'est le Mécois qui va abroger les Médinois? Ou est-ce que le Médinois qui va abroger le Mécois? Non. C'est le Médinois, Al-Madaniya, qui va abroger le Mekkiya. Pourquoi? Parce que Al-Madaniya, il a été révélé après, au niveau chronologique. Au niveau chronologique, il a été révélé après le Mécois. Hein? Après la Hijra. Jayid, Wahakava. Donc ça, c'était donc les quatre enseignements, hein, de la connaissance, du fait de savoir si le verset est mécois ou médinois. Non. الآن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحكمة من نزول القرآن الكريم من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل أي ليصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Puis dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il va évoquer ici la sagesse de la descente du Coran noble au niveau de sa subdivision en versets mécois et médinois. En versets mécois et médinois. Vous voyez? Donc, on a vu qu'il a été descendu le Coran de manière progressive sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette descente qui est progressive, bien sûr, elle a des sagesses, elle a des raisons qui sont nombreuses. Parmi elles, le raffermissement du cœur du prophète. Le raffermissement, la consolidation du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens rapproché, qu'est-ce qu'il dit? Dans la surat al-Furqan, verset 32-33, il dit, et ceux qui ont mécru ont dit, pourquoi le Coran ne lui a pas été descendu en une seule fois? Kadhalika, Allah dit, kadhalika, c'est ainsi. C'est-à-dire, c'est ainsi que nous l'avons descendu en plusieurs fois, nuthab bitabihi fu'adak, afin que par cela, nous raffermissions ton cœur. Nous raffermissions ton cœur. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Et afin que vous le récitiez, dans le sens du tafsir, afin que vous le récitiez, Jayid, progressivement. Hein? Afin que vous le récitiez progressivement, comme l'a dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. نعم. Puis il dit ولا يأتونك بمثل. Et ils ne viennent pas à toi avec يعني, une parole afin de contredire, de contester ton message et ta véracité. جيد, afin de se mettre يعني, en tant qu'obstacle entre les gens et le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. إلا جئناك بالحق. Sans que nous venions à toi avec la vérité. Illa jannaka bilhaq. Wa ahsana tafsir. Sans que nous venions à toi avec la vérité et avec un exposé meilleur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans la surat Al-Furqan. Et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi, pour raffermir ton cœur, et afin que vous le récitiez soigneusement, ils ne t'apporteront aucune parole contestant ton message, sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. قال الشيخ العثيمين هذا من الحكم في نزول القرآن مفرقا. أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ لو نزل جملة واحدة حصلت الموعظة في أول نزولها لا شك، لكن قد ينسى الإنسان أو يغفل، فإذا نزل مرة ثانية ماذا؟ ازداد ثباتا. ولهذا تجد الإنسان عند المصائب الكبيرة ينسى ما نزل من القرآن، ولا يخفاكم ما وقع حين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم من إنكار عمر لوفاته وتهديده من يقول إنه توفي، حتى جاء أبو بكر وقرأ الآيات التي تدل على أنه سيموت، فكأنها نزلت في تلك اليوم، فهم لشدة المصيبة ذهلوا عما جاء في القرآن من أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يموت كما يموت الناس. جل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. Donc cette première chose est une des sagesses de la descente coranique en plusieurs fois. Donc, premièrement, on a dit le raffermissement, la consolidation du cœur du prophète. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le Coran avait été descendu en une seule fois, certes, Allah subhanahu wa ta'ala aurait exhorté Jayyid sans aucun doute au début de la révélation. Mais les gens, il se peut que les gens auraient oublié ou aurait été insouciant de toutes les exhortations qui sont dans le Coran al-Karim. Jayyid, c'est comme celui aujourd'hui qui embrasse l'islam et qui découvre le Coran pour la première fois de sa vie. Donc il va le lire, peut-être en une seule fois, il va mettre quelques temps, quelques semaines pour le lire en une seule fois. Mais est-ce qu'il va pouvoir profiter de manière parfaite de tout ce qu'il y a dedans, de toutes les exhortations qu'il y a dans le Coran al-Karim? Là, sans aucun doute. Lui n'a pas reçu le Coran plusieurs fois comme l'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme l'ont vécu les sahaba, qui l'ont vécu en plusieurs fois, et qui ont eu le temps donc de comprendre, d'appliquer, de mémoriser. Jayyid. Mais lorsque donc le Coran est révélé donc une deuxième fois, une troisième fois, et souvent, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, il revient avec des versets qui possèdent des sens qu'il y avait déjà dans les versets précédents, au niveau du tawhid, au niveau des ordres, des interdictions. Cela ne fait que raffermir la foi dans le cœur des gens, ainsi que la compréhension, ainsi que la mémorisation, ainsi que l'application. Jayyid. C'est pour ça que l'être humain, quand il est touché par une épreuve, une grande épreuve, un grand malheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait vivre, eh bien, des fois, il oublie. Il oublie ce qu'il y a dans le Coran. Jayyid. Et vous n'ignorez pas que lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé, quand il est mort, Omar, il était tellement affligé, il avait tellement de compassion pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est décédé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé tous ceux qui disent que le prophète il est mort. Il a menacé, genre il a refusé que les gens disent qu'il est mort. Il ne voulait pas que les gens disent qu'il est mort. Et il est menacé même de les tuer. Il y en a ici, ils disent que le prophète il était mort. Alors que le prophète il était mort, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que Abu Bakr, radiallahu anhu, il est venu et il lui a récité des versets du Coran qui prouvent que le prophète il est mort. Et que le prophète, il meurt. C'est un mortel. C'est un mortel, yani. C'est un être humain qui meurt. Jayyid. Comme si ce verset-là, qu'il a récité d'Abu Bakr, radiallahu anhu, était révélé à ce moment même. Alors qu'il a été révélé, yani, un certain temps. Déjà. Jayyid. Comme si Omar l'avait oublié, ce verset. Pourquoi? Parce que les gens, quand il leur arrive un malheur, yani, souvent, ils oublient. Ils oublient. Ils oublient ce qu'il y a dans le Coran, et notamment ici, les versets qui expriment donc le fait qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un être humain et qu'il meurt comme meurent tous les êtres humains. نعم. جيد. نعم. ثانيا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Deuxième raison pour laquelle le Coran a été révélé en plusieurs fois, le fait de faciliter aux gens sa mémorisation, faciliter aux gens sa compréhension et sa mise en application. Hein? Du fait que le Coran leur sera récité donc de manière progressive, étape par étape. Et cela en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens rapproché, surat al-Isra, verset 106, et un Coran, hein, dont on a fait yani, une séparation entre le bien et le mal, entre le faux et le vrai, afin que tu le lises aux gens, ala mukfin, c'est-à-dire doucement. Doucement. Et nous l'avons descendu étape par étape, progressivement. Thalithan, tanshitul himam, li qabouli ma nazala min al-Qur'an wa tanfidhuhu. حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. Troisièmement, le fait de donner de l'envie et de l'énergie et du dynamisme chez les gens au niveau de l'acceptation de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a descendu dans le Coran. Donner envie aux gens de l'accepter, premièrement, et donner envie aux gens de l'appliquer. Car du fait que le Coran a été révélé en plusieurs fois, eh bien les gens, ils attendaient impatiemment. Ils avaient une attente, un désir par rapport au prochain verset qui allait être révélé. Vous voyez ? Donc ce désir, cette envie-là, impatiente, fait que les gens avaient plus de facilité à accepter et à appliquer ce qu'il y a dans le Coran. Surtout lorsqu'ils avaient besoin de manière particulière, un besoin particulier, une nécessité, hein, telle que les versets qui concernaient le mensonge forgé à l'encontre de la femme du prophète Aïcha, radiyallahu anha. Donc là, les gens, ils attendaient impatiemment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va dire par rapport à cette histoire, par rapport aussi au fait que le mari accuse son épouse d'adultère ou de fornication. Qu'est-ce qu'Allah il va révéler comme verset? Vous voyez le fait que les gens ici, ils ressentent un désir impatient, hein, du prochain verset, fait que l'acceptation en sera d'autant plus que facile, ainsi que son application. Jayid.
Rabi'an, atadarruju fi at-tashri' hatta yasil ila darajat al-kamal kama fi ayat al-khamr alladhi nasha'a an-nas 'alayhi wa alifu وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تجريمه لقبول تحريمه عفوا لقبول تحريمه حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه.
Quatrièmement, la progression au niveau de la législation. Allah subhanahu wa ta'ala à légiférer de manière progressive, jusqu'à ce que les gens atteignent une application parfaite. Comme les versets concernant le vin, al-khamr. Il faut savoir qu'avant l'islam, les gens avaient l'habitude de boire. Avaient l'habitude de boire du vin et de s'enivrer. Les gens, yani, vivaient sur ça. C'était coutumier. Ça y est, donc, forcément, il était difficile pour eux de stopper tout d'un coup et d'arrêter, yani, de boire de manière absolue. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa clémence, de par sa compassion, yani, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a d'abord descendu un verset dans la sourate al-Baqarah, verset 219, de lequel il dit Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Il t'interroge sur le vin et al-maisir, c'est-à-dire tous les jeux dans lesquels il y a une mise. La personne, elle va miser de l'argent ou des biens, hein, genre de pari, si vous voulez, et qui fait qu'elle va, soit elle va perdre sa mise, soit elle va décupler sa mise. Al-maisir, ça c'est le maisir. Jayid. Donc pourquoi on l'appelle maisir? Parce qu'il est facile pour la personne de perdre des sommes énormes d'argent, comme il est facile de gagner des sommes énormes d'argent. Il se peut que la personne gagne des millions en une nuit. Donc il dit à Allah, il t'interroge au sujet de l'alcool, yani du vin et de al-maisir. Il dit, il y a dans ces deux-là un péché immense. Mais il y a aussi des intérêts pour les gens. Intérêts au niveau des conséquences et des résultats de ces deux choses. Mais ces choses-là en elles-mêmes sont des péchés. Sont des mauvaises choses. Wa ithmuhuma, puis dit Allah, et leur péché est plus grand que leur bénéfice. Donc, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prohibé le vin. Mais Allah jalla wa ala prépare les gens à accepter son interdiction. Allah ici, il commence à les préparer à ce qu'ils acceptent son interdiction. Car il est logique que l'intelligence humaine, celui qui a une raison humaine, fait qu'il ne peut pas faire une chose dont le mal est plus grand que ses bénéfices. Dont le mal est plus grand que ses profits ou ses bénéfices. Jaïd, non. ثم يقول نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات صلوات. Deuxième étape au niveau du vin, Allah سبحانه وتعالى dans la sourate النساء verset 43, qu'est-ce qu'il dit? Ô vous qui avez cru, ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. N'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Ça, c'est la deuxième étape. Deuxième étape, dans ce verset-là, Allah Jalla wa Ala, il commence à les entraîner. Il les entraîne au fait de délaisser le vin et l'alcool à certains moments. Donc Allah Jalla wa Ala leur a interdit, mais au moment seulement des prières. C'est-à-dire avant de... il ne fallait pas qu'ils aillent à la prière, à la mosquée, en étant ivres. Les moments d'interdiction, c'était les moments de prière. Jayid. Donc Allah, il commence à les préparer. Progressivement. ثُمَّ نَزَلَ ثَالِثًا قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. Et enfin, troisième étape et dernière étape au niveau du vin, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Ma'ida, verset 90-92, dans le sens rapproché du verset, il dit Allah, ô vous qui avez cru, il y a dans le vin, dans les jeux d'argent, dans les idoles, dans l'azlam. L'azlam, c'était les bâtons qu'on utilisait pour faire des flèches et que les polythéistes utilisaient pour savoir s'ils devaient faire quelque chose ou pas. Par exemple, si la personne devait partir en voyage, elle prenait trois bâtons de flèches. Sur un bâton, elle écrivait « if'al », « fais-le ». Sur l'autre, elle écrivait « ne le fais pas ». Et sur l'autre, elle n'écrivait rien. Et il mettait ces trois bâtons-là dans un sac. Puis, il tirait « au sort », entre guillemets. Il tirait. Si le bâton qui est tiré est marqué dessus « if'al »,« fais », il partait en voyage. S'il tirait le bâton, il y avait marqué « la taf'al », »,« ne fais pas », il ne partait pas en voyage. Parce qu'il croyait qu'il y avait un mal s'il partait en voyage. Et s'il tire le bâton, il n'y a rien écrit. Dans ce cas-là, il retire un autre bâton, etc. etc. Non. Ça, c'est l'azlam. Donc, il dit à Allah, le vin, les jeux d'argent, les idoles et ces flèches sont une souillure parmi les œuvres de Shaitan. Éloignez-vous-en. Fashtanibouhum. Éloignez-vous-en. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a clairement et catégoriquement interdit le vin. Ça y est, khlas. La'allakum tuflihun. Et ainsi, réussirez-vous. Puis il dit Allah, le shaitan ne veut que mettre entre vous l'inimitié et la haine dans le vin, dans les jeux de hasard. Wa yasuddakum an dhikrillah. Et être un obstacle, vous empêcher de mentionner, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de prier. Allez-vous arrêter? Et obéissez à Allah, et obéissez aux messagers, et prenez garde. Et si vous vous détournez, sachez que notre messager, sa mission n'est que de transmettre de manière claire. Vous voyez? Donc, dans ce verset-là, on a l'interdiction totale. L'interdiction totale du quoi? De quoi? Du vin. L'interdiction du vin, de manière totale. À toutes les heures, pas seulement aux heures de prière, mais à toute heure. Après que Allah subhanahu wa ta'ala ait d'abord préparé les personnes à cela, dans le premier verset de la sourate al-Baqarah, et après qu'Allah jalla wa ala les ait entraînés à cela, lorsqu'Allah les a interdit durant les heures de prière, dans la sourate al-Nisa. Et enfin, dans la sourate al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala a complètement interdit al-Khamra. Jayid, alhamdulillah. Donc ça c'était les quatre sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran en plusieurs fois de manière progressive. De manière progressive, alhamdulillah. Fa naktafi bihad al-qadr insha'Allah ta'ala wa nawasilu bi'anillah azza wa jal al-usbu' al-qadima wal-ilmu inda Allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.